Radio Mieux-être. CJLV AM 1570. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de Nos rêves nous parlent avec Jean Galliardi. Bonjour Jean.
Bonjour Jean.
Alors aujourd'hui, Jean, on va aborder la question, le domaine des rêves dans les traditions ancestrales.
Oui, parce que autant la psychologie moderne a plein de choses à dire sur les rêves, autant toutes les cultures qui nous ont précédés se sont intéressées aux rêves. Et c'est particulièrement intéressant de savoir qu'au Québec, on est sur une terre du rêve, littéralement. C'est-à-dire que les Premières Nations ici, que ce soit les Iroquois, les Hurons, étaient des peuples qui s'intéressaient énormément aux rêves. Mm-hmm. On dit, par exemple, que les Iroquois, avant de partir dans une expédition de chasse ou de guerre, interrogeaient toujours leurs rêveurs, leurs rêveuses. Ils sélectionnaient dans leur clan des gens qui avaient plus de facilité que les autres à rêver. Mm-hmm. Ils les entraînaient et avant de se lancer dans une expédition, ils leur demandaient d'essayer d'avoir une vision, un rêve de ce qui pourrait arriver. Et pour la petite histoire, les Iroquois n'ont jamais été vaincus militairement. C'est un des seuls peuples mm-hmm. qui a négocié sur une base, qui n'était pas dans la position de vaincu quand ils ont négocié les accords qu'ils ont passés avec les Blancs. Et ça semble tenir à leur relation au rêve. On a des témoignages extrêmement intéressants, par exemple, de ce père jésuite qui était venu évangéliser les Iroquois et qui écrit à sa hiérarchie qu'il ne peut pas grand-chose parce qu'il a beau de leur parler de Jésus-Christ. Ils ont un Dieu, et ce Dieu, c'est le rêve. Et la difficulté que ça lui pose, c'est que ce Dieu leur parle. Mm-hmm. Et sous-entendant que lui-même avait peut-être un petit peu de mal à entendre les messages de Jésus-Christ quand il priait. Et qu'en tout cas, il n'arrivait pas à substituer sa religion à celle du rêve. Mais avant d'aller plus loin, de faire peut-être un tour d'horizon assez large, pour revenir à la fin peut-être aux Amérindiens, mm-hmm. je voudrais raconter un rêve que j'ai entendu il y a quelque temps, et qui me paraît très très intéressant, auquel tout le monde pourra peut-être tirer quelque chose. C'est un rêve qui parle des rêves, d'une certaine façon. Alors, la personne qui m'a communiqué ça, pour situer, c'est un homme dans la cinquantaine d'années, c'est un Français qui est venu s'établir au Québec, ça aura son importance un petit peu par rapport aux rêves, et qui m'écrit donc qu'il a fait, quelques nuits auparavant, un rêve étonnant. Il est propriétaire d'une maison au Québec, mais voilà qu'une source a jailli du sous-sol de cette maison, et pour s'écouler, l'eau a fendu la maison en deux sur un côté. Alors le toit est fendu, le mur est fendu, le sol est fendu, et l'eau s'écoule à l'extérieur, formant une rivière. Mmh. Et du coup, la maison est inhabitable. Mais régulièrement, il va au sous-sol, au bord de cette source, car elle a un effet thérapeutique. À chaque fois qu'il se pose près d'elle, ses douleurs s'en vont. Il se dit lavé de ses peurs, de ses chagrins, il est revitalisé. Et d'ailleurs, ce qui l'étonne énormément, c'est que cette source fonctionne aussi sur d'autres que lui. Mmh. Et le rapport avec la France, c'est qu'à ce moment-là du rêve, il se rend compte qu'il a une autre maison en France, une petite maison, à qui il est arrivé exactement la même chose. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus flagrant au Québec, dans sa maison québécoise.
Ouais.
Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un rêve comme ça ? C'est un rêve assez typique. Hein. Beaucoup de gens font des rêves de cet ordre-là.
En commençant, lorsqu'on parle d'un sous-sol, souvent c'est l'inconscient qui se révèle.
Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment un des éléments. On peut voir que l'inconscient, c'est ce qui est sous notre conscience. C'est, mm-hmm. on va, dans ce cas-là, d'ailleurs, parler plus volonté du subconscient. Ça dit vraiment ce que ça veut dire. Ouais. Subconscient, c'est sous la conscience. C'est ce dont la conscience émerge. Et la structure psychique que nous sommes se symbolise souvent dans les rêves comme une maison, justement. On parlera une autre fois d'un rêve de Jung où il visitait une très grande maison et ça a donné plein d'enseignements sur l'inconscient. Et donc, voilà que cette maison est fendue en deux par une source qui a jailli dans le sous-sol, qui a donc jailli dans l'inconscient. Mmh. Et elle provoque ce qui ressemble quand même à une petite catastrophe, puisque la maison devient inhabitable. C'est une façon de dire que la façon que cette personne avait de vivre jusqu'ici ne fonctionne plus.
Les fondations s'effondrent ?
Alors, il ne m'en fait pas mention des fondations en tant que telles, mais on peut voir vraiment que c'est toute la structure psychique de la maison. Ça menace les fondations, oui. Et en tout cas, il va falloir entreprendre de grands travaux, mm-hmm, pour pouvoir vivre à nouveau dans cette maison. Mais elle est irriguée par une source. Il y a une source que je crois qu'on peut appeler comme un peu la source merveilleuse, la source miraculeuse, mm-hmm, qui s'est mise à jaillir et qui s'écoule au dehors en formant une rivière. Alors ça, c'est un autre symbole très intéressant, c'est que la rivière, c'est souvent une image de la vie, tout simplement, mmh, de cette idée que la vie coule comme une rivière et que, vous savez qu'il y a un philosophe qui a dit que quand on trempe son pied dans la rivière, on se trempe jamais deux fois dans la même eau, mmh, elle n'a pas arrêté de changer.
Héraclite.
Je crois bien, merci pour ta culture. Je voulais pas dire de bêtises, donc je préférais m'en tenir à un philosophe, mais voilà, c'est en effet sans doute Héraclite. Et donc cette source a ruiné, on pourrait dire, sa maison, provoque un bouleversement dans sa vie, très certainement, mais en même temps, elle lui donne clairement une direction de vie, qui est cette rivière qui s'écoule. Ouais. Mais le point important, et c'est là où on peut penser que le rêve parle de lui-même, ou que l'inconscient parle de lui-même plus largement que le rêve, ben c'est cette source. Cette source, c'est quoi ? C'est la source des images intérieures. Que ce soit les rêves, que ce soit l'imagination, que ce soit tout ce qui peut venir spontanément des profondeurs de l'inconscient, ça a un effet profondément guérissant quand on y prête attention. Mmh. Et ça m'a fait encourager cette personne à passer du temps à faire attention justement à ses rêves, à son imagination, à tout ce qui lui venait. C'est quelqu'un, pour le situer peut-être un peu mieux, qui travaille dans le domaine de l'écriture. Donc c'était très intéressant, ça signalait quelque part qu'il peut trouver dans la richesse de son imaginaire des choses qui vont le guérir.
Des nouvelles inspirations.
Des nouvelles inspirations, c'est ça. Et c'est aussi quelqu'un qui médite, qui guide des groupes de méditation, et qui a donc très très bien compris, quand je lui en ai parlé, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, aller s'asseoir au bord de la source miraculeuse. C'est comme à un moment où éventuellement la vie paraît cassée en deux, un peu comme sa maison, où on ne sait plus où aller, où il y a des dualités, des oppositions qui semblent insurmontables. Ce serait un peu s'asseoir en silence avec nos rêves de la nuit, les écouter, laisser les images nous travailler et laisser monter tout ce qui vient de l'inconscient. Ça dessine une rivière.
Et comme on a dit dans les émissions précédentes, Jean, et pour que tout ça se passe, il faut vraiment engager un dialogue sincère, volontaire avec l'inconscient, parce que l'inconscient, il va nous apporter des messages, il va nous proposer des solutions, une guidance, dans la mesure où on dialogue avec lui. Si on l'ignore, si on considère que c'est une poubelle, que c'est juste quelque chose d'un peu farfelu, qui est sécrété par le cerveau, ben, il y a des bonnes chances qu'on puisse pas avoir accès à toute cette richesse.
Ben, par le fait même de ne pas déballer le cadeau, on n'a pas accès à la richesse. Si tu reçois, si je te fais un cadeau, mais que tu le poses sur un coin de ton bureau et que tu le déballes pas, tu sauras pas ce qu'il y a dedans. Mm-hmm. Il se trouve que même si on s'intéresse pas particulièrement à nos rêves, ou même si on a des théories réductrices sur nos rêves, les rêves sont que L'expression d'un désordre neuronal, les rêves, ce n'est que. Hein, ce qui est réductionniste, tout ce qui est une réduction va commencer avec « ce n'est que », au lieu de laisser ça ouvert. Ça n'empêche pas les gens qui pensent comme ça de rêver. Simplement, ils n'y prêtent même pas attention, donc ils ne peuvent rien en tirer. Mais pour tirer parti de la guidance de l'inconscient, pour tirer parti de ces messages, la première chose, c'est évidemment de s'y intéresser. Et le premier signe qu'on est prêt à entamer un dialogue avec cet inconscient, le premier message quelque part qu'on peut lui envoyer, on en parlait dans les émissions précédentes, dans les deux des émissions précédentes, consiste à noter nos rêves, c'est-à-dire à au moins minimalement consacrer le temps qu'il faut pour les capturer, en prendre note, et en prenant note, prendre note de tout ce qui remonte avec ses rêves, toutes les émotions, les pensées qui nous viennent, éventuellement les dessiner,
les enregistrer,
c'est une bonne façon. Alors on risque d'avoir au fil des années des kilomètres de bandes enregistrées. L'écriture a ça de plus facile, qu'on s'y réfère plus facilement, et que en écrivant on rentre dans un processus où on revit le rêve, on repasse par les images.
Parce que le rêve, comme on disait également la semaine dernière, lorsqu'on le note, lorsqu'on le retranscrit, c'est important de toujours le revivre au présent.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment un des points essentiels de l'écoute des rêves. C'est de retranscrire et de raconter aussi, quand on raconte le rêve à quelqu'un d'autre, le rêve au présent. Il faut savoir que notre cerveau ne distingue pas du point de vue émotionnel, entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et donc, en revivant le rêve, enfin, en disant le rêve au présent, on va le revivre et on va retrouver les émotions qui sont associées aux différentes images du rêve. Ça implique, je pourrais rajouter, de le faire dans une certaine lenteur. Ça implique, par exemple, d'écrire une phrase du rêve et puis de prendre le temps de sentir, tiens, qu'est-ce qu'il y a là pour moi, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me touche, éventuellement de le noter dans la marge. Plus on prend son temps avec les rêves et plus on a de chances de pouvoir faire remonter ce qu'il y a dans l'inconscient que le rêve cherche à nous exprimer.
Alors Jean, aujourd'hui, on revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Donc, on aborde les rêves dans les grandes cultures du monde, dans les traditions ancestrales, pour commencer.
Oui. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de plus lointain. Qu'est-ce qu'on sait un petit peu de la préhistoire du rêve? Le fait est qu'on n'en sait pas grand-chose, mais on est bien certain, évidemment, que les hommes préhistoriques rêvaient. On a déjà parlé dans une autre émission du fait que les animaux rêvent. On a des preuves de ça. Mais tant qu'on n'a pas eu de culture écrite, on n'a pas vraiment de traces des rêves de nos ancêtres. Sauf peut-être certaines peintures sur les parois des grottes, qui sont des images assez étonnantes, qui sont des images qui peuvent bien venir des rêves, quand par exemple on a des images de chasseurs qui sont des composites d'êtres humains et d'animaux avec des cornes de cerf. Est-ce que ça vient de visions? Est-ce que ça vient de rêves nocturnes? On ne sait pas exactement.
Il y a même une théorie qui dit que la religion serait venue justement de l'interprétation des rêves.
Oui, et j'allais venir un petit peu sur ce point. C'est que on a des traces, on a des éléments qui nous permettent de penser que déjà à cette époque, il y a des hommes, des femmes allaient s'enfermer dans les profondeurs des grottes pour obtenir des rêves. En réponse à leurs questionnements, un petit peu comme le faisaient encore il y a 500 ans les Iroquois. Ils se préparaient à une expédition de chasse où ils se demandaient où était passé le troupeau qui était d'habitude relativement proche d'eux, et ils envoyaient leurs meilleurs rêveurs incuber un rêve.
Qui était le chaman aussi, on peut dire.
Voilà, alors c'est ça, c'est que ce sont essentiellement à l'époque des cultures chamaniques. C'est le chaman, c'est qui? C'est quelqu'un qui justement a prouvé, développé une facilité à aller dans les mondes du rêve. Parce que la grande différence, et ça par contre on en est certain parce que cette culture entre guillemets primitive, s'est poursuivie, s'est retrouvée dans d'innombrables peuples encore contemporains, comme les aborigènes d'Australie, les Bushman. Une des grandes différences dans la compréhension qu'ils avaient du rêve avec nous, c'est que pour eux, rêver, c'était voyager. Rêver, c'était voyager dans d'autres mondes. Mmh. Et d'ailleurs, certaines cultures, encore aujourd'hui, qui adhèrent à cette idée, disent que nous ne faisons que vivre dans le rêve de la surface. Que le monde solide, extérieur, dans lequel nous vivons, est lui aussi un rêve, mmh. dont la particularité, c'est qu'il est plus solide que les autres, et surtout que nous le partageons tous.
Et ça, c'est pas si bête que ça, parce que même aujourd'hui, bon, il y a des psychiatres qui s'intéressent à justement toute cette dimension-là des différents stades de niveau de conscience. On en parle aussi dans les avancées de la physique quantique. La physique quantique qui n'est pas une chose arrêtée, mais qui est bien un domaine de recherche. Mais tout ça, les peuples aborigènes et les peuples ancestraux n'étaient pas si loin que ça, peut-être, de la réalité.
En fait, c'est la grande surprise sur laquelle a débouché la physique quantique. Hein. C'est que après, la physique quantique a émergé d'un moment où nous croyions avoir tout compris avec la physique. Hein. La physique classique, à la fin du 19e siècle, il y a des physiciens qui disaient, voilà, nous avons tout compris, sauf une ou deux petites expériences. Il se trouve que les une ou deux petites expériences ont été un peu comme la fêlure dans la maison mm-hmm. dont on a parlé au début, ouais. et ça a entraîné un effondrement de la maison, c'est-à-dire que tout l'édifice de la physique classique s'est effondré, et qu'on s'est rendu compte, et c'est le grand point de la physique quantique, qu'on ne pouvait pas séparer la conscience de la réalité. Mm-hmm. Hein? Alors, je suis pas physicien quantique, je vais pas le développer.
La conscience, la matière n'existe pas s'il y a pas de conscience.
Très clairement, ou en tout cas, elle n'a pas cette forme que nous lui connaissons. La physique quantique, en dernier lieu, décrit la réalité comme étant simplement un champ énergétique mm-hmm. qu'on peut caractériser comme une grande onde, et ça ne se localise dans le temps et dans l'espace, ça ne prend forme que quand il y a un observateur. Mm-hmm. Hein? Alors, en effet, ça a d'innombrables conséquences sur la possibilité d'autres mondes, d'autres dimensions. Il faut savoir, par exemple, que la théorie des cordes, qui est la dernière théorie à la mode, on dirait, dans les milieux physiques, parce qu'elle est la seule théorie qui pourrait réconcilier Einstein, la relativité, et la physique quantique. C'est une théorie qui réclame, pour fonctionner, qu'il y ait au moins 11 dimensions, dont certaines seraient absolument microscopiques de notre point de vue. Ce serait des dimensions qui ne seraient pas plus grosses que d'un 1 mm.
Quand tu dis 11 dimensions, 11 dimensions de réalité?
11 dimensions de réalité, okay. Un minimum.
Mais là, par exemple, notre réalité concrète, c'est celle qu'on connaît du temps et de l'espace. Hein,
qui donc décrit dans leur terminologie 4 dimensions, les 3 dimensions spatiales, mm-hmm. et dans la terminologie de la physique, le temps est aussi une dimension. Donc, il y aurait encore 7 autres dimensions. Okay. Mais là, il faudrait inviter un physicien pour qu'il nous en parle. Ouais. C'est juste très intéressant, en effet, de savoir que les physiciens en sont venus à se demander si les peuples ancestraux, et aussi si l'Orient spirituel n'avait pas eu finalement des intuitions très très juste sur la réalité, auquel nos instruments de mesure seraient seulement en train de commencer à parvenir à les discerner.
Okay.
Je signale, pour les personnes intéressées, 2 ouvrages très intéressants là-dessus. Il y a un monsieur qui s'appelle Fridtjof Capra qui a écrit le Tao de la physique, mmh. et dans lequel justement il reprend toutes les équations de la physique telle qu'elle était connue dans les années 80 et les compare avec les enseignements spirituels de l'Orient, et il dit, mais voilà, on est en train de prouver ce que les voyants, les yogis orientaux avaient été capables de voir, mmh. de voir comment, de voir, semble-t-il, en méditation et en rêve.
Et ça, ça prend pas des millions de dollars de fonds de développement attribués à des universités ou des compagnies pharmaceutiques ou autres. Parce que c'est un peu ça le problème aujourd'hui. La science est devenue ultra-matérialiste. Ça roule à l'argent, alors que dans le fond, peut-être que la réalité est beaucoup plus simple et accessible que...
Et au fond, la thèse qu'il y a sous tout ça, et qui est une thèse qui, je crois, tous les peuples ancestraux se rejoignaient là-dessus, c'est qu'il y a deux voies de connaissance. Il y en a une qui est obligatoirement incomplète et qui consiste à y aller par le monde extérieur en essayant tout le temps de prouver, de valider, etc. Et puis il y en a une autre qui est de se souvenir. C'est-à-dire que la plupart des cultures ancestrales disent que nous sommes porteurs tout simplement d'une conscience de tout, et que en redescendant, en descendant à l'intérieur dans nos profondeurs, on va pouvoir retrouver ce savoir ancestral, on va pouvoir le remettre à jour.
Un genre de disque dur ultime.
L'inconscient collectif de Carl Jung, dont Carl Jung lui-même était convaincu que tout au fond de l'inconscient, il y avait quelque chose qu'il appelait le savoir absolu. Et le savoir absolu, disait-il, le seul problème, c'est que le savoir absolu, il est dans l'éternité. Et il n'est pas à propos du temps et de l'espace. Il n'est pas localisé. Et que donc la conscience doit faire le travail.
Il n'est pas réductible.
Il n'est pas réductible, en effet. Je veux signaler un autre livre qui va mettre en lumière un peu les mêmes choses, mais sous un autre angle, qui est extrêmement intéressant et dont je parlerai peut-être un peu plus tard dans l'émission. C'est un livre de Robert Moss.
Oui.
Le livre s'intitule « Les Iroquois et le rêve chamanique ». Et Robert Moss est un enseignant dans le travail du rêve qui a développé ses propres techniques, mais qui, à partir d'un certain point, justement, a rencontré des rêveurs Mohawk en particulier, et qui a été extrêmement surpris de se rendre compte que ils avaient finalement un fond de connaissances qui allait bien au-delà même de notre science.
Bon, mais alors Jean, on va faire une petite pause et on revient par la suite, mais juste auparavant, je vais donner quand même les numéros de téléphone, parce que comme c'est l'habitude à l'émission, on invite les gens à téléphoner. Si vous aimeriez faire interpréter un rêve, donc Jean va pouvoir vous donner un son de cloche à ce sujet-là. Donc vous pouvez nous téléphoner au 450-680-1570, 450-680-1570, et on a également un numéro sans frais. Le numéro 1-866-895-3142.
Vous écoutez Radio Mieux-Être, CJLV AM 1570.
Alors, de retour à l'émission « Nos rêves nous parlent », Jean Rivet au micro, en compagnie de Jean Gagliardi. Donc aujourd'hui, on aborde les rêves dans leur dimension un peu plus historique, si on peut dire. On aborde les rêves ancestraux.
C'est ça, les rêves dans les cultures ancestrales, les rêves avant la psychologie. Puisque la psychologie, nous avons redécouvert les rêves en Occident avec la psychologie, avec Freud, avec Carl Jung au début du XXe siècle. Oui. Mais de tout temps... les êtres humains ont rêvé, se sont intéressés aux rêves. Et tout à l'heure, Jean, tu faisais allusion à quelque chose de très très intéressant. Tu disais que on se demande, certains historiens se demandent si la religion ne s'originerait pas au fond des expériences vécues dans les rêves, la relation aux rêves. Et il y a des éléments qui vont à l'appui de ce que tu dis, parce que dans toutes les cultures ancestrales, le rêve, c'est un moyen de voyager dans d'autres mondes, c'est un moyen de rencontrer les ancêtres, c'est un moyen de rencontrer les esprits, c'est-à-dire des dimensions, des choses qui vivent dans d'autres dimensions ou qui nous sont tout simplement invisibles. C'est un moyen de communiquer avec les dieux.
Et je me mets aussi à la place de l'homme préhistorique qui, peut-être, après avoir perdu un être proche ou un être cher, rêve à lui. Alors là, c'est comme si finalement il y avait un pont entre le visible et l'invisible, entre la vie et la mort, entre...
Exactement. J'allais en venir justement à ce point. On trouve des tombes qui viennent depuis 30 000 ans à peu près. Hein. Mm-hmm. Depuis 30 000 ans à peu près, l'être humain enterre ses congénères décédés. Et on peut supposer qu'il faisait des cérémonies, des rituels tout autour de ça. Mais il y a un point très 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 frappant. C'est que d'une façon très générale, un peu partout dans le monde, les décédés sont enterrés avec des objets qui sont leurs objets préférés, qui sont souvent des objets qui leur servent à chasser, ou à se protéger en voyage, et aussi très souvent avec de la nourriture. Mmh. Et ça a permis aux paléontologues s'intéressant à ces choses-là de déduire qu'en fait on donnait à ces personnes décédées tous les éléments nécessaires pour un voyage. Mmh. Et donc il est assez clair que nos ancêtres concevaient la mort comme un voyage. Comme un voyage, comme le fait de quitter cette dimension pour aller en visiter une autre. Et il leur fournissait tous les éléments nécessaires, de la même façon que quand ils se préparaient pour une expédition de chasse. Et ils commençaient par vérifier qu'ils avaient assez de nourriture pour tenir pendant la semaine en question. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve après dans d'innombrables mythologies, dans lequel les morts voyagent, par exemple, ils voyagent dans les profondeurs, ils vont rencontrer un passeur, le fameux passeur Charon de la mythologie grecque, qui leur fait franchir un fleuve,
le Styx.
Le Styx que quand on franchit dans l'autre sens, pour éventuellement venir à la vie, il a une propriété, il nous fait oublier. Il nous fait tout oublier. Donc déjà, on voit dans ces mythologies-là, par exemple,
que vraiment... C'est une façon de représenter une réalité.
Voilà, une réalité qu'aujourd'hui, on discutera plus sous le forme de la réincarnation, etc. C'est-à-dire la mesure dans laquelle, après la mort, nous pourrions partir ailleurs, nous reposer, apprendre... faire d'autres expériences éventuellement et éventuellement un jour revenir.
Encore là, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ces vieilles cultures, ces traditions ancestrales, parce que, bon, on aurait tendance à croire que c'est juste des trucs infantiles, un petit peu bêtes, mais non, c'est très, très riche. On s'est bien fait formater la tête par la culture ambiante, qui est surtout matérialiste, on doit le dire, comme on disait tout à l'heure. Mais moi, je trouve ça vraiment fantastique, puis c'est de ça qu'on parle. Il y a vraiment toute une richesse déjà présente au début de l'humanité, une richesse, une connaissance là, vraiment très profonde de la vie puis de la réalité.
Oui, très certainement. En fait, notre culture à nous, elle est essentiellement centrée dans la tête. Et parce que nous avons énormément entraîné notre cerveau, notre tête à réfléchir, on s'entraîne à l'école. Nous excellons dans la technologie, nous excellons dans cette façon de fonctionner. Mais il y a beaucoup de gens qui se rendent compte à notre époque que la tête n'est pas suffisant et que nous aurions besoin de trouver une connaissance venant éventuellement d'ailleurs. Jung a vécu une expérience très intéressante à ce sujet. Quand il a visité les Indiens Pueblos, dans le sud-ouest des États-Unis. Il a passé quelques temps avec eux et a observé leurs rituels, a observé leur vie quotidienne, et il se rendait compte que tous les matins, les Indiens se levaient extrêmement tôt, avant le lever du soleil, et ils allaient faire une cérémonie. Alors il a demandé au chef du clan qu'il accueillait s'il pouvait participer ou du moins être témoin à cette cérémonie. Mmh. Et le chef lui a dit, lui a accordé ça. Et alors, il les a vus faire une cérémonie devant le soleil levant. Alors voilà quelque chose qu'on retrouve dans d'innombrables cultures, dans justement, dans quasiment toutes les cultures. Alors il leur a demandé la signification de ces gestes. Et le chef Obidjois lui a dit à ce moment-là, ben, nous aidons notre père soleil à se lever. Et d'ailleurs...
Oui, parce qu'il est un petit peu âgé.
Voilà. Et d'ailleurs, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que les Blancs veulent nous interdire notre religion. Et qu'est-ce que le monde va devenir si le soleil ne se lève plus? Et alors, Jung, c'est peut-être là qu'est le génie de Jung, c'est que plutôt que de se dire, ben, c'est complètement stupide, c'est complètement primitif, hein, il s'est dit, oh, quelle richesse. Or, je comprends dans quelle misère nous vivons, nous.
Quelle poésie.
Quelle poésie.
Ben oui.
Quelle richesse. Et surtout, il s'est retourné sur la misère qu'il rencontrait dans son cabinet à Zurich, en Suisse, tous ces gens qui venaient se plaindre d'une perte de sens de la vie, d'une vie vide, d'une vie sans intérêt.
Mécanique.
Mécanique. Et dit, mais voilà, ces gens ont une place dans l'univers. Ils savent exactement quelle est leur place et quel est leur rôle dans l'univers. Et c'est du même ordre que du rêve, c'est poétique, ça a un sens symbolique. Et c'est d'une certaine façon, si on le prend pas d'une façon littérale, c'est vrai. Parce que si on regarde le soleil comme étant un symbole de la conscience, eh bien ça prend un effort régulièrement pour devenir plus conscient.
Ouais.
Et ça prend un effort régulier, comme les Amérindiens faisaient cette cérémonie tous les matins. Et c'est là qu'il a eu un dialogue absolument fascinant, parce que le chef Obidjois lui aurait dit encore « Mais je ne comprends pas les Blancs, ils sont fous, ils ne pensent qu'avec leur tête ». Alors Jung était quand même un petit peu surpris, c'est un occidental, et il lui a dit « Mais avec quoi vous pensez, vous ?» Et l'Amérindien a simplement montré son cœur. Et là, Jung a pris une grande, grande leçon qui se retrouve dans ses écrits ultérieurs qui deviennent de moins en moins intellectuels à partir de là, qui parlent de plus en plus justement à la dimension du cœur. C'est comme il s'est dit, ah, nous avons d'autres centres d'intelligence que le cerveau. Et là encore, la science moderne en arrive exactement à la même conclusion, puisque dans les progrès qui ont été faits dans les 15 dernières années en neurophysiologie, on s'est aperçu qu'on avait des neurones dans le cœur et qu'on a des neurones dans le ventre. Et que
on parle même de deuxième cerveau.
On parle de deuxième cerveau dans le ventre et de cerveau émotionnel, d'une capacité
à saisir. Le fameux gut feeling des anglophones.
Et exactement, hein, ce moment où, par exemple, la tête ne se rend compte de rien, mais le ventre se serre terriblement, parce qu'en fait, le cerveau, notre cerveau émotionnel, notre deuxième cerveau vient de se rendre compte de quelque chose.
Et d'ailleurs, le ventre, on va le désigner souvent comme la panse.
La panse qui pense, oui,
la
en
panse
effet.
Qui pense. Et je rajouterais la raison doute, le cœur, jamais.
Très belle formule,
voilà.
Merci. alors c'est un peu de ça dont il est question quand on travaille avec les rêves. Déjà, de toute façon, on ne peut pas travailler les rêves, on ne peut pas aborder les rêves seulement avec la tête. Sinon, c'est un peu comme si on mettait le rêve dans un bocal, dans du formol, et on tue le rêve. Pour travailler les rêves, pour être en relation avec les rêves, ça prend tout. Ça prend le cœur, ça prend les émotions,
ça prend la poésie.
La tête aussi, ça prend la poésie, absolument. Et il faut garder à l'esprit que le rêve est un être vivant. C'est quelque chose de vivant en nous qui cherche à nous communiquer quelque chose, ou qu'il y a là-dedans quelque chose de vivant. Et c'est ça, précisément, que les cultures ancestrales comprenaient visiblement beaucoup mieux que nous, au point de prendre, eux, les rêves comme guide pour leur expliquer vraiment qu'est-ce qu'ils devaient faire dans la vie, comment mener une expédition de chasse, comment guérir. Je vais faire un petit tour d'horizon de quelques éléments, par exemple, dans les cultures ancestrales. On parlait de la Grèce tout à l'heure. C'est très intéressant de savoir que, en Grèce, une des principales méthodes de guérison consistait à aller dormir dans un temple, Les temples d'Asclépios, qu'on appelait aussi, chez les Romains, qui a été appelé Esculape, chez les Égyptiens, Sérapis. En fait, c'est quelque chose qui se faisait dans toute l'Antiquité. Mais on a retrouvé, autour de la Méditerranée, près de 400 temples dédiés à Asclépios et plus de 10 000 plaques de remerciements aux dieux de les avoir, d'avoir guéri des maladies a priori incurables.
Donc Jean, ça c'est parce que ces temples-là, ils existent toujours. Si vous allez en Grèce, vous pouvez les visiter. Donc c'était des temples où les gens allaient simplement s'étendre pour dormir et recevoir une guidance.
Absolument, pour recevoir, alors vraiment, Asclépios, c'était le dieu médecin. Ouais. C'était le dieu guérisseur. Donc, pour la petite histoire, qui a eu beaucoup d'ennuis avec Zeus parce qu'il est allé jusqu'à ressusciter un défunt. Mm-hmm. Et donc là, les dieux l'ont dit qu'il avait outrepassé ses droits. Mais c'était un dieu qui était donc vraiment le dieu de la guérison.
Ouais.
Et qui était censé avoir appris sa science d'un centaure. Le centaure Chiron qui avait été blessé et qui était le grand guérisseur avant lui et qui lui avait transmis sa science. Et les Grecs, et en fait ultérieurement les Romains et toute l'Antiquité, qui étaient malades, si ça dépassait, je dirais, le simple rhume, les choses qu'on pouvait traiter relativement facilement, si les remèdes des guérisseurs locaux n'y pouvaient rien, qu'est-ce que faisaient les Grecs ? Ils partaient en pèlerinage à un temple d'Asclépios. Et là, ils arrivaient aux abords du temple et ils ne pouvaient pas rentrer au prime abord. Il fallait qu'ils commencent par se purifier. Okay. Il fallait qu'ils commencent par prendre des bains, réfléchir sur leur vie, et surtout, ils attendaient un premier rêve. Et tous les jours, les prêtres, gardiens du temple, recevaient les gens qui voulaient avoir la guérison, et ils interrogeaient sur leurs rêves, et ils attendaient d'avoir un rêve qui dise que cette personne était attendue par le dieu.
Ouais.
Alors à ce moment-là, on le faisait rentrer dans le temple, il jeûnait pendant plusieurs jours, et j'en parlerai tout à l'heure parce que ça ramène à la quête de vision des Amérindiens, justement, dans lequel le jeûne est quelque chose de très important. Il jeûnait et surtout, ils allaient dormir dans des grands dortoirs, des dortoirs qui s'appelaient en grec des clinis. Mm-hmm. Et c'est de ce mot qu'est venu le mot clinique, qui est encore pour nous aussi...
clinique médicale, clinique qu'on représente souvent aussi avec le petit serpent, le caducé.
Le caducé.
Le caducé qui est en fait l'animal totem de Esculape.
Exactement, c'était précisément ça. Asclépios, son animal totem, c'était le serpent. C'est-à-dire que dans les dortoirs, ça rendait le sommeil sans doute un petit peu inconfortable, les dormeurs étaient environnés par des grands serpents jaunes qui se glissaient partout et qui étaient sacrés. Donc il n'y avait absolument pas le droit de leur faire mal si le serpent se mettait à vous grimper dessus. Ils n'étaient pas venimeux, mais évidemment, encore faut-il ne pas être trop phobique vis-à-vis
des serpents.
Okay.
Et, ça peut faire un sommeil un peu agité.
Aussi. Ça fait un sommeil un peu agité, peut-être propice justement au fait de se souvenir de ses rêves. Ouais. Hein, on a plus tendance quand on reste à moitié éveillé.
Ouais.
Et le temple, justement, les témoignages qu'on en a, c'est que régulièrement, en pleine nuit, il y avait un rêveur qui avait un rêve et qui se mettait à crier, qui appelait les prêtres pour avoir une interprétation.
Okay.
Et alors à ce moment-là, il y avait un prêtre qui accourait, qui se penchait sur le rêveur, qui écoutait son rêve et qui lui donnait une interprétation. Et très généralement, cette interprétation, c'était une prescription du dieu. Quelquefois, il arrivait que le dieu apparaisse dans le rêve et guérisse directement la personne.
Donc ça paraît un petit peu bête de dire ça, mais nos fameuses prescriptions de médecin à la clinique, c'est à l'origine de là.
Ben, c'était au départ une prescription divine, voilà.
Maintenant,
c'est nos médecins qui sont les dieux, qui se prennent un peu pour les dieux des fois.
Mais là, ce qu'on prescrit surtout, c'est des médicaments.
Voilà. Alors qu'à l'époque, la prescription, c'est les porter éventuellement sur un changement de régime alimentaire, éventuellement sur un rituel à faire, où on en a un exemple aussi très intéressant d'un homme qui était frappé de... Je ne sais plus exactement quel problème, mais le dieu lui a prescrit d'aller se baigner dans un fleuve qui était glacé. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est une forme de thérapie, l'hydrothérapie, qu'on a redécouvert que beaucoup plus tard, au 18e, 19e siècle, en Europe, en Allemagne, qui consiste à stimuler très très fortement la circulation en se plongeant pendant une quinzaine de secondes
dans de l'eau glacée.
Oui,
tout à fait. Hein? Pour la douleur, il paraît que c'est très très bon.
Et voilà, je crois que cette personne avait justement des problèmes de l'ordre arthritique très dur et des problèmes circulatoires. Et on a le récit complet de cette histoire parce que il y a une chronique qui a été écrite à ce sujet. Et alors c'est très drôle parce que le rêveur lui-même ne croit pas du tout au fait que ça va le guérir. Mais comme c'est le dieu qui le lui a prescrit, il s'y engage. Et là, il est accompagné de toute sa famille, de tous ses amis qui viennent le voir se plonger dans l'eau. Et il se plonge une première fois. Et quand il en ressort, il a une sensation de chaleur qui le surprend beaucoup. Et là, il y prend plaisir. Et il s'y replonge à deux ou trois reprises. Et quand il sort de l'eau, pour la première fois depuis des années, on pourrait dire qu'il se met à gambader. C'est-à-dire qu'il retrouve une telle vitalité que et tout le monde est donc convaincu qu'en effet, il est guéri, que c'est le Dieu qui l'a guéri. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que cette méthode de guérison s'est poursuivie à l'époque chrétienne jusqu'au VIe siècle, où dans les églises, on allait de la même façon prier, dormir et rêver pour une guérison. Évidemment, ce n'était plus Asclépios qu'on invoquait, c'était Jésus-Christ. Et on a aussi des témoignages extrêmement intéressants de guérison. Et dans certains coins, en particulier en Grèce, justement, ils avaient même les serpents dans l'église. Ils avaient même continué à inviter les serpents.
Je pense que c'est au 15e siècle qu'on a jugé que ces pratiques-là étaient païennes et qu'on les a carrément bannies.
Oh, bien avant, malheureusement. Dès le 6e siècle, ça commençait à être banni.
Et... en 1500.
Non, mais 1500, c'est le 16e siècle.
Ouais, 16e siècle.
Que moi, je te parle du 6e siècle, donc vers 500 à peu près, après différents conciles de l'Église qui se posaient de plus en plus le problème de comment contrecarrer les différentes hérésies. Et les différentes hérésies qui prenaient forme à l'époque étaient toutes fondées sur le fait qu'on n'avait pas besoin de prêtres pour rencontrer une voix divine qui pouvait nous guider. Alors, l'Église a commencé à resserrer, probablement plus pour des raisons politiques que des raisons théologiques, parce que, si on en a le temps tout à l'heure, on parlera un petit peu des rêves dans la Bible. La Bible est parsemée de rêves. Il est dit très clairement à un moment, Yahvé dit très précisément, si je veux me faire connaître à un prophète, je lui enverrai des visions et je lui enverrai des rêves. Et c'était donc vraiment dit dans l'Ancien Testament. Et on a beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais donc à partir du 6e siècle, il a commencé à y avoir un couvercle là-dessus. À partir du moment aussi où la Bible a été traduite en latin, et donc a été rendu plus accessible. Il se trouve que le traducteur de la Bible était lui-même quelqu'un qui, on ne sait pas très bien pourquoi, mais avait visiblement une dent contre les rêves. Et là où, dans la Bible, il y avait une mise en garde contre toutes les méthodes de divination, par le hasard, etc., mais une recommandation à écouter les rêves, ce traducteur, je crois Grégoire qui s'appelait, a, lui, englobé le rêve là-dedans, a commencé à dire... ce qui a été un peu le leitmotiv de l'Église pendant un millénaire, que le problème avec les rêves, c'est que c'est très généralement, c'est satanique, c'est Satan qui envoie des rêves, c'est des tentatives de tourner du droit chemin. Ça va aussi avec le
fait... Parce qu'il n'y a pas de censure dans le rêve.
Exactement, ça va avec le fait qu'il n'y a pas de censure, ça va avec le fait que dans le rêve va revenir tout ce qui a été refoulé. Donc, par exemple, la sexualité et tout ce genre de choses.
Ça, c'est méchant, ça.
Et oui, je l'ai déjà mentionné au moins deux fois à cette antenne, mais le grand Saint-Augustin disait que heureusement qu'il n'était pas tenu pour responsable de ses rêves, parce que il rêvait qu'il était avec des jeunes femmes et qu'il avait une vie tout à fait libertine avec elles, ce qui était la vie qu'il avait eue avant de se convertir et de devenir un féroce, pourrait-on dire, intégriste chrétien, qui jetait l'anathème sur tous les gens qui faisaient autre chose que prier. Ouais. Donc, c'était une des difficultés pour les prêtres. Ils faisaient vœu de chasteté et dans leurs rêves, ils n'étaient pas chastes. Alors, ça leur posait des problèmes. Ils considéraient que c'était la tentation.
On sait que la sexualité réprimée, ça peut faire des petites catastrophes.
Ça commence par se manifester dans les rêves. En particulier, le désir non vécu commence par remonter dans les rêves et commence par devenir un petit peu torturant, là. Alors, ça nous resitue un petit peu l'histoire du rêve jusqu'à nos jours, parce que, en fait, en tout cas en Occident, parce que à partir de ce moment-là, encore plus à partir de l'an 1000, où vraiment là, il y a eu toute une floraison de sectes qui disaient que le Saint-Esprit parlait directement aux êtres humains par des visions, par des rêves. Alors l'Église a mis encore plus le couvercle. Les rêves ont été considérés comme diaboliques. Et puis quand est arrivée la Révolution française, et donc tout ce mouvement qui a commencé à faire vaciller l'autorité de l'Église en Europe, c'est pas pour autant que le rêve a retrouvé droit de cité, puisque bien au contraire, c'est la raison qu'on s'est mis à privilégier. On s'est mis à privilégier la raison contre tout ce qui était irrationnel. Et c'est allé jusqu'à interdire l'interprétation des rêves. Dans le Code Napoléon, Napoléon a... Il y a un article du Code Napoléon qui assimile l'interprétation des rêves à la sorcellerie. Et c'est un article qui n'a été abrogé. Il n'avait plus vraiment d'importance. Ça fait longtemps qu'on n'arrêtait plus personne pour l'interprétation des rêves. Mais qui n'a été abrogé que dans les années 1990. Au moment d'une refonte.
Assez incroyable.
C'est quand même assez incroyable. Et ça traduit donc la façon dont les rêves ont été perdus, ont été retrouvés, et ça introduit assez bien ce qui sera notre prochaine émission, parce que la prochaine fois, je parlerai de la redécouverte du trésor, des rêves, par Freud d'abord, puis surtout par Jung. Ce sera une émission qui sera consacrée un peu à la vie et à l'œuvre de Carl Jung.
C'est une question pour toi, Jean. Bon, il y a Freud, il y a Jung, bien entendu, mais après Jung, est-ce qu'il y a des gens qui ont, si on peut dire, développé de nouvelles idées sur les rêves?
Énormément. Énormément. Je t'en citerai par exemple un immédiatement. Fritz Perl, qui est l'inventeur de la Gestalt, a inventé une façon complètement différente de travailler avec les rêves, non analytique, ne passant pas par la tête. Il y a énormément de gens qui se sont investis dans le domaine de l'art-thérapie et qui ont développé de fantastiques façons de travailler avec leurs rêves. Il y a des physiciens qui se sont intéressés aux rêves et qui sont allés voir... qu'est-ce que ça pouvait leur dire par rapport à leur discipline. Il y a tous ces gens qui ont travaillé sur le rêve lucide, à propos duquel nous avons eu une émission il y a un mois. Et alors que ça, c'est un domaine que Jung n'a absolument pas effleuré.
C'est un immense domaine.
Et c'est un immense domaine. Donc, dans le rêve lucide, on peut citer Stéphane Laberge, par exemple. À Montréal, Craig Webb, qui a un laboratoire sur le rêve lucide. Jung a fait énormément... a ouvert quelque chose. Jung se prétendait pas un homme de doctrine ou de système. Il prétendait pas résumer la question des rêves. C'est un explorateur qui avait mis le pied sur un continent perdu. À partir de là, il a comme planté sa tente, dressé une carte, et bien d'autres sont arrivés derrière et ont continué l'exploration.
Parce qu'il y en a plein d'autres. Je pense à un, par exemple, que je trouve très intéressant, Ken Wilber.
Oui, Ken Wilber, oui.
Qui est aussi un philosophe, mais aussi un chercheur.
Oui.
Qui aborde aussi toute cette question-là des différents stades de conscience. Comment on appréhende, on approche la réalité.
Il semble que ce soit la plus grande question pour notre 21e siècle, comme si notre science matérialiste est allée très loin, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est quelle est la nature de la conscience? Jusqu'où pouvons-nous aller dans l'exploration de la conscience?
Donc, la question ultime, c'est pas « qui suis-je? », c'est « suis-je?
» Oui, en effet.
Ben Jean, regarde, c'est déjà la fin de l'émission, mais je vais donner aux auditeurs tes coordonnées. Donc, on peut visiter, on peut aller consulter ton blog sur Internet. Donc, http://voixdurêve.blogspot.ca où vous faites simplement dans Google Jean Gagliardi et vous allez tomber sur le site de Jean. Je donne également ton numéro si quelqu'un voudrait avoir une consultation privée, te rencontrer, parler d'analyse de rêve avec toi. Donc, ton numéro de téléphone est le 514-983-2165. Alors voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à pareille heure.
À la semaine prochaine.
Dont il va falloir m'éveiller.